Chapitre 8. Voilà ce qui s'est passé. La police n'allait pas m'aider. Paranoïaque ou pas, mon père avait raison. Les forces de l'ordre sont un système. Elles sont là pour venir en aide aux victimes, coincer les coupables et favoriser la carrière des gradés. Témoins, informateurs, nous ne sommes que de la piétaille, des détails sans importance, inévitablement broyés par l'immense machinerie bureaucratique. Je pouvais rester toute la journée à côté de mon téléphone à attendre un appel qui ne viendrait jamais. Ou alors, je pouvais retrouver Dori Petracelli par mes propres moyens. Mon bureau était enseveli sous un monceau d'échantillons de tissus, de croquis de rideaux et de devis, situation qui n'avait rien d'exceptionnel dans un appartement plus chaleureux que vaste. Je pris tout ce fatras à plein bras et le transférai sur un tas d'une hauteur inquiétante et dangereusement bancale sur la table basse. Je voyais désormais mon objectif, mon ordinateur portable. Je l'allumai et me mis au travail. Premier arrêt, le site internet du Centre national pour les enfants disparus et exploités. J'y fus accueilli par les photos de trois jeunes enfants portés disparus au cours de la semaine précédente, un garçon, deux filles. Seattle, Chicago, Saint-Louis. Rien que des villes où j'avais vécu. Je me demande parfois si c'est ça qui a fini par avoir raison de ma mère. On avait beau fuir, on finissait toujours par fuir encore. Si on regarde dans le détail, il n'y a pas d'endroit sûr où élever un enfant. Le crime est universel. Il y a des délinquants sexuels fichés dans tout le pays. Je le sais, je consulte les bases de données. Le Centre national pour les enfants disparus et exploités possède son propre moteur de recherche. Je sélectionnais « sexe féminin », « Massachusetts » et « disparu dans les 25 dernières années ». Je cliquais sur les flèches pour lancer la recherche, puis attendis en me rongeant l'ongle du pouce. Bella sortit de la kitchenette après avoir bafré son dîner. Elle me jeta un regard de reproche. « Courir », disaient ses yeux. « Sortir, prendre une laisse, jouer ». Bella était un berger australien de race. 7 ans, un corps athlétique haut sur pattes, blanc avec des taches brunes et bleues. Comme beaucoup de bergers australiens, elle avait un œil bleu et l'autre marron, ce qui lui donnait un air perpétuellement interrogateur dont elle aimait se servir à son avantage. « Un instant », lui répondis-je. Elle m'adressa un gémissement plaintif et, constatant son inefficacité, s'affala par terre d'une humeur de chien. J'avais reçu Bella d'une cliente en guise de paiement 4 ans plus tôt. Bella venait de massacrer ses escarpins Jimmy Choo préférés et la dame en avait assez de la nervosité de la chienne. C'est sûr, les bergers australiens ne font pas de bons chiens d'appartement. Il faut les occuper, sinon ils s'attirent des ennuis. Mais Bella et moi nous entendions bien, principalement parce que j'aimais courir et que, même si elle n'était plus toute jeune, Bella avalait ses 10 kilomètres comme un rien. Il allait falloir la sortir sans tarder, ou alors je risquais de perdre un de mes superbes coussins ou bien un rouleau de tissu que j'adorais. Bella savait toujours se faire comprendre. La recherche était terminée. Mon écran fut envahi par une colonne déroulante de visages radieux, heureux. Photos de classe, agrandissement de l'album de famille. Les enfants disparus ont toujours l'air heureux sur les photos. L'idée étant de vous faire le plus mal possible. Résultat de la recherche, 15. Je pris la souris et descendis lentement la colonne. Anna, Gisela, Jennifer, Janeka, Sandy, Catherine, Cathy. Il m'était pénible de regarder ces photos. Malgré mes doutes sur mon père, je me demandais toujours si j'aurais pu devenir l'une d'elles. Si nous n'étions pas partis, s'il n'avait pas été à ce point obsédé. Je songeais à nouveau au médaillon. D'où venait-il? Et pourquoi, oh pourquoi l'avais-je donné à Dori? Son nom ne figurait pas dans la liste. Je m'autorisais à pousser un soupir. Bella dressa une oreille, flairant une baisse de tension, une chance de reprendre nos petites habitudes du soir. Mais c'est alors que je remarquai les dates. Toutes ces affaires étaient postérieures à 1997. Même si la recherche n'était pas bornée dans le temps, la base de données ne devait pas remonter au-delà de cette date. Je me rongeais à nouveau l'ongle du pouce en réfléchissant aux options qui s'offraient à moi. Je pouvais appeler la hotline, mais cela risquait de provoquer trop de questions. Je préférais l'anonymat des recherches sur Internet, l'anonymat apparent du moins, car Dieu sait que la prolifération des logiciels espions signifiait probablement que Big Brother, ou en tout cas une grosse machine du marketing, épiait le moindre de mes gestes. Je connaissais un autre site à essayer, je n'y allais pas aussi souvent, il me rendait triste. Je tapais sur mon moteur de recherche www.donutwork.org. Et en 2 secondes, j'y fus. Le réseau Do s'occupe principalement des vieilles affaires de disparition. Il essaie de rapprocher le squelette humain retrouvé dans un lieu donné d'une disparition éventuellement signalée dans une autre circonscription. Sa devise, il n'est jamais trop tard pour résoudre un mystère. L'idée me donna le frisson tandis que d'une main je tenais l'ampoule qui contenait les cendres de ma mère et que de l'autre je tapais les critères de recherche. Massachusetts. La première réponse me fit un choc. 3 photos du même garçon, d'abord à 10 ans, puis vieilli artificiellement à 20 et 35 ans. Il avait disparu en 1965 et était présumé mort. Un instant, il jouait dans le jardin et le suivant, il n'était plus là. Un pédophile incarcéré dans le Connecticut prétendait l'avoir violé et assassiné, mais il ne se souvenait pas de l'endroit où il avait enterré le corps. L'affaire n'était donc pas close, et les parents cherchaient maintenant les restes de leur fils, avec la même fièvre qu'ils avaient mise 40 ans plus tôt, à chercher leur enfant. Je me demandais ce que ça faisait aux parents de devoir regarder ces photos artificiellement vieillies, d'entrevoir celui que leur fils aurait pu devenir. Si la maman n'était pas rentrée répondre au téléphone, ou si le papa n'était pas passé sous la voiture avec son chariot pour faire la vidange. « Bats-toi », m'avait toujours dit mon père. Dans 74% des cas, les enfants kidnappés qui sont assassinés le sont dans les 3 premières heures. Survie à ces 3 heures, ne laisse aucune chance à ce salaud. Je pleurais. Je ne sais pas pourquoi, je ne connaissais pas ce petit garçon. Il était très probablement mort depuis plus de 40 ans, mais je comprenais sa terreur. Je l'avais ressenti chaque fois que mon père se lançait dans un de ses sermons ou de ses exercices d'entraînement. Se battre ? Quand on est un gamin de 25 kilos face à un homme de 100, que peut-on faire qui change vraiment la donne ? Mon père se berçait peut-être d'illusions, mais quant à moi, j'ai toujours été réaliste. Si vous êtes un enfant et qu'on veut vous faire du mal, le plus probable est qu'on vous retrouvera mort. Je passais à l'affaire suivante, 1967. Je ne regardais plus que les dates maintenant, je ne voulais pas voir les photos. Il me fallut encore 5 clics, et puis 12 novembre 1982. J'avais Dori Petracelli sous les yeux. Je regardais sa photo, vieillie artificiellement jusqu'à l'âge de 30 ans. Je lisais le récit de ce qui était arrivé à ma meilleure amie. Puis j'allais à la salle de bain et vomis jusqu'à avoir des hauts le cœur à vide. Ensuite, 20, 40, 50 minutes plus tard, je n'avais plus la notion du temps, je pris la laisse dans une main, le taser dans l'autre. Bella dansait à mes pieds, manquant de me renverser dans sa hâte de descendre. J'attachai la laisse à son collier et nous courûmes, encore, encore et encore. Le temps de rentrer à la maison, 1 heure et demie plus tard, je me croyais remise. Je me sentais insensible, détachée même. J'avais encore les valises familiales, j'allais tout de suite commencer à faire mes bagages. C'est alors que je mis les infos à la télé. Bobby arriva chez lui peu après 21 heures, un homme en mission. Il avait 40 minutes pour se doucher, manger, s'enfiler un coca et retourner à Roxbury. Malheureusement, le parking de South Boston n'était pas de cet avis. Il décrivit un circuit de 8 pâtés de maisons autour de son immeuble avant de s'énerver et de se garer sur le trottoir. Il vivait dangereusement, car les policiers municipaux se feraient un malin plaisir de coller une prune à un agent d'État. Bonne surprise, une de ses locataires, Madame Higgins, avait déposé une assiette de biscuits à son intention. « J'ai vu les nouvelles, gardez la forme », disait son petit mot. Bobby ne voyait rien à y redire, et il commença donc son dîner par un gâteau au citron. Et encore 3 autres, en triant la pile de courriers éparpillés au sol. Il prit les enveloppes importantes qui contenaient des factures, des chèques de loyer, et laissa le reste. Encore un gâteau au citron pour la route. Mâchant sans plus même sentir le goût, il parcourut le long couloir étroit qui menait à sa chambre au fond de l'appartement. Il déboutonna sa chemise d'une main, vida ses poches de pantalon de l'autre. Puis il ôta sa chemise d'un haussement d'épaule, enleva son pantalon à coups de pied et entra dans la petite salle de bain carrelée de bleu, en chaussettes beige et slip blanc. Il ouvrit la douche à fond. Un des meilleurs souvenirs qui lui restait encore de l'unité spéciale, la longue douche chaude en rentrant à la maison. Il demeura un temps infini sous le jet bouillant. Il inhalait la vapeur, la laissait pénétrer ses pores, dans l'espoir, comme toujours, qu'elle emporterait l'horreur avec elle. Son cerveau était un maelstrom d'images enfiévrées. Ces six petites filles, le visage momifié contre les sacs poubelles en plastique transparent. De vieilles photographies de Catherine à 12 ans, le visage blême creusé par la faim, les yeux transformés en d'immenses pupilles noires par un mois passé seul dans le noir. Et, bien sûr, l'autre image qu'il avait été obligé de voir, qu'il verrait probablement jusqu'à la fin de ses jours. L'expression du visage du mari de Catherine, Jimmy Gagnon, juste avant que la balle sortie du fusil de Bobby ne lui fracasse le crâne. 2 ans après, Bobby rêvait toujours de la fusillade 4 ou 5 nuits par semaine. Il supposait qu'un jour ça passerait à 3 fois par semaine, puis 2, puis peut-être, s'il avait de la chance, à 3 ou 4 fois par mois. Il s'était fait aider, bien sûr. Il voyait encore son ancien lieutenant qui lui tenait lieu de conseiller. Il avait même participé à 1 ou 2 réunions avec des policiers impliqués dans des incidents graves. Mais pour autant qu'il pouvait le dire, rien de tout cela n'avait servi à grand-chose. Tuer un homme vous change. C'est aussi simple que ça. Il faut encore se lever tous les matins et enfiler son pantalon une jambe après l'autre, comme tout le monde. Et il y a les bons jours et les mauvais. Et puis, il y a tous ces autres jours qui ne sont ni franchement bons ni franchement mauvais. Juste la vie. Juste faire son boulot. Peut-être que Didier avait raison. Peut-être qu'il y avait 2 Bobby Dodge, celui d'avant et celui d'après la fusillade. Peut-être que ces choses-là se passent comme ça, inévitablement. Bobby laissa couler l'eau jusqu'à ce qu'elle devienne froide. S'essuyant, il jeta un œil à sa montre. Il lui restait toute 1 minute pour dîner. Au menu, poulet au micro-ondes. Il mit 2 blancs de poulet Tyson au four et retourna dans la salle de bain en buée pour attaquer son visage au rasoir. Après quoi, officiellement 5 minutes en retard, il enfila à la hâte des vêtements propres, ouvrit une canette de coca, mit les 2 blancs de poulet brûlants sur une assiette en carton et commit sa première erreur grave. Il s'assit. 3 minutes plus tard, il était endormi sur le canapé. Le poulet tombait par terre, l'assiette en carton se froissait sur ses genoux. Des choses qui arrivent quand on n'a dormi que 4 heures en 2 jours et demi. Il se réveilla en sursaut, hébété et désorienté, quelque temps plus tard. Ses mains se tendirent devant lui. Il cherchait son fusil. Bon Dieu, il lui fallait son fusil. Jimmy Gagnon approchait, essayait de l'agripper de ses mains squelettiques. Bobby bondit de son canapé avant que l'image ne soit totalement balayée de son esprit. Il se retrouva debout, au milieu de son appartement, à braquer une assiette en carton graisseuse vers sa télé. Son cœur tonnait dans sa poitrine. Rêve d'angoisse. Il compta jusqu'à 10, puis lentement, à rebours, jusqu'à 1. Il répéta ce rituel 3 fois avant que son pouls ne revienne peu à peu à la normale. Il posa l'assiette écrasée, ramassa les 2 blancs de poulet, son estomac grondait. Il décida que c'était assez propre par terre et mangea avec les doigts. La première fois que Bobby avait rencontré Catherine Gagnon, c'était en tant que tireur d'élite appelé sur les lieux d'une prise d'otage conjugale. On signalait un mari armé qui tenait femme et enfant en joue. Bobby avait pris position face au domicile des Gagnons et il évaluait la situation à travers la lunette de son fusil quand il avait repéré Jimmy, debout au pied du lit, en train d'agiter un pistolet et de hurler avec tant de violence que Bobby voyait ses tendons saillir sur son cou. Puis Catherine entra dans son champ de vision, son fils de 4 ans serré contre elle. Elle avait les mains sur les oreilles de Nathan, son visage tourné vers lui, comme si elle essayait de le protéger du pire. La situation n'avait fait que s'aggraver. Jimmy avait arraché son enfant à l'étreinte de Catherine. Il avait envoyé le gamin à l'autre bout de la pièce, loin de ce qui allait arriver ensuite. Puis il avait pointé l'arme vers la tête de sa femme. Bobby avait lu sur les lèvres de Catherine, dans le monde agrandi de sa lunette Leopold. Et après Jimmy, que reste-t-il ? Jimmy avait brusquement souri, et grâce à ce sourire, Bobby avait su exactement ce qui allait se passer après. Le doigt de Jimmy Gagnon s'était raidi sur la détente, et à 50 mètres de là, depuis la chambre d'un voisin plongé dans le noir, Bobby Dodge l'avait descendu. Après cet épisode, il ne faisait aucun doute que Bobby avait commis quelques erreurs. Il s'était mis à boire, pour commencer. Ensuite, il avait rencontré Catherine en personne, dans un musée de la région. Sans doute son geste le plus autodestructeur. Catherine Gagnon était belle. Elle était sexy. Elle était la veuve reconnaissante d'un mari violent à qui Bobby venait de donner une mort prématurée. Il avait eu une liaison avec elle. Pas physiquement comme Didi et la plupart des gens le croyaient, mais émotionnellement, ce qui était peut-être pire et qui expliquait pourquoi il ne s'était jamais donné la peine de contredire les suppositions de quiconque. Il avait franchi la ligne rouge. Il avait eu des sentiments pour Kat, et quand les gens autour d'elle avaient commencé à mourir dans des circonstances atroces, il avait craint pour sa vie. Non sans raison a posteriori. Encore à ce jour, Didi prétendait que Catherine Gagnon était une des femmes les plus dangereuses qui ait jamais vécu à Boston, une femme qui, selon toute probabilité, même s'il manquait des preuves solides, avait monté un scénario pour faire descendre son propre mari. Et encore à ce jour, chaque fois que Bobby pensait à elle, il voyait avant tout une mère tentant désespérément de protéger son petit garçon. On peut être à la fois noble et sans cœur, plein d'abnégation et centré sur soi, aimer réellement et tuer de sang-froid. Didi avait ce luxe de haïr Catherine, Bobby ne la comprenait que trop bien. Il jeta l'assiette en carton, écrasa la canette de coca, la lança dans la poubelle des recyclables. Il était en train de prendre ses clés de voiture, de se préparer psychologiquement à ce qui allait sans doute être une note de parking des plus salées, quand son téléphone sonna. Il regarda qui appelait, puis l'heure, 23h15. Il comprit ce qui s'était passé avant même de décrocher. « Catherine ?» dit-il calmement.
« Pourquoi tu ne m'as rien dit ?»
explosa-t-elle hystérique. Apprenant ainsi à Bobby que les médias avaient fini par découvrir la vérité.